Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Nouvelles de Russie. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une nouvelle qui a joué un rôle considérable dans la littérature russe du XIXe siècle, une nouvelle de Nicolas Gogol. Nicolas Gogol est né en 1809 et il est mort en 1852. Cette nouvelle, c'est Le journal d'un fou. Elle a été écrite en 1835. Et elle a mis à jour en Russie l'importance des petits fonctionnaires dans la vie des Russes. Voici donc le début de ce journal d'un fou. Il s'est produit aujourd'hui une aventure étrange. Je me suis levé assez tard et quand Mavra m'a apporté mes bottes cirées, je lui ai demandé l'heure. Quand elle m'a dit qu'il était 10 heures bien sonné, je me suis dépêché de m'habiller. J'avoue que je ne serais jamais allé au ministère si j'avais su d'avance quelle mine renfrognée ferait notre chef de section. Voilà déjà un bout de temps qu'il me dit « Comment se fait-il que tu aies toujours un pareil brouillamini dans ta tête, frère ? Certains jours, tu te démènes comme un forcené, tu fais un tel gâchis que le diable lui-même ne pourrait s'y reconnaître. Tu écris... un titre en petites lettres, tu n'indiques ni la date ni le numéro. Le vilain héros, il est sûrement jaloux de moi parce que je travaille dans le cabinet du directeur que je taille les plumes de son excellence. Bref, je ne serais pas allé au ministère si je n'avais pas eu l'espoir de voir le caissier, de soutirer à ce juif fût-ce la plus petite avance sur ma paye. Ah, quelle lettre encore que celui-là! Le jugement dernier sera là avant qu'il ne fasse jamais une avance sur votre moi, Seigneur. Tu peux supplier, te mettre en quatre, même si tu es dans la misère, il ne te donnera rien. Et quand on pense que chez lui, sa cuisinière lui donne des gifles, tout le monde le sait. Je ne vois pas les avantages qu'il y a à travailler dans un ministère, cela ne rapporte absolument rien. À l'administration de la province, à la chambre civile, à la chambre des finances, c'est tout autre chose, on voit là-bas... qui sont blottis dans les coins à griffonner, ils portent de vilains vestons, ils ont une trône telle qu'on a envie de cracher. Mais il faut voir les villes qu'ils louent. Allez voir, ils ont une mine paisible, ils parlent d'un ton si délicat. Voulez-vous bien me prêter votre petit canif pour tailler cette plume ? Et ensuite, ils dépouillent si bien le solliciteur qu'il ne lui reste plus que sa chemise. Il est vrai que chez nous, par contre, le service est distingué. Partout une propreté telle qu'on en verra de semblable à l'administration de la province. Des tables d'acajou, tous les chefs se disent « vous ». Oui, si ce n'était la distinction du service il y a longtemps que j'aurais quitté le ministère. J'avais mis ma vieille capote et emporté mon parapluie car il pleuvait à verse. Il n'y avait personne dans les rues, j'ai rencontré que des femmes qui se protégeaient avec le pan de leur robe, des marchands russes sous leur parapluie, des garçons de bureau. Quant aux nobles... J'ai aperçu une calèche qui s'arrêtait devant le magasin où je passais. Je l'ai reconnu sur le champ, c'était la calèche de notre directeur. Mais il n'a que faire dans ce magasin, mais si je dis, c'est sans doute sa fille. Je me suis serré contre le mur, le valet a ouvert la portière, elle s'est envolée dans la voiture comme un oiseau, elle a jeté un coup d'œil à droite, à gauche, j'ai distingué dans un éclair ses yeux, ses sourcils, Seigneur. Mon Dieu, j'étais perdu. Perdu. Quelle idée de sortir par une pluie pareille. Aller soutenir maintenant que les femmes n'ont pas la passion de tous ces chiffons. Elle ne m'a pas reconnu. D'ailleurs, je m'efforçais de me dissimuler du mieux que je pouvais. Ma capote était très sale, d'une coupe démodée. Sa petite chienne, qui n'avait pas réussi à franchir le seuil du magasin, était restée dans la rue. Je connais cette petite chienne. Elle s'appelle Meiji. Il ne s'était pas écoulé une minute que j'ai entendu soudain une voix fluette. « Bonjour, Meiji. » Oh, voilà une histoire. Qui disait cela ? J'ai regardé autour de moi, j'ai vu deux dames qui passaient sous un parapluie, l'une vieille, l'autre toute jeune. Mais elle m'avait déjà dépassé à côté de moi. La voix retentit de nouveau. « Tu n'as pas honte, Meiji ? » Quelle diablerie. Je vois Meiji flairer le chien qui suivait les dames. Est-ce que je ne serai pas ivre? Non, fidèle, tu te trompes. J'ai vu de mes yeux Medji prononcer ces mots. J'ai été, J'ai été, très malade. Voyez-moi un peu ce chien. J'avoue que j'ai été stupéfait en entendant parler comme les hommes. Plus tard, après avoir bien réfléchi à tout cela, j'ai cessé de m'étonner. En effet, on a déjà observé ici-bas un grand nombre d'exemples analogues. Il paraît qu'en Angleterre, on a vu sortir de l'eau un poisson qui a dit deux mots dans une langue si étrange que depuis 3 ans déjà, les savants se penchent sur le problème sans avoir encore rien découvert. J'ai lu aussi dans les journaux que 2 vaches étaient entrées dans une boutique pour demander une livre de thé. Mais je reconnais que j'ai été beaucoup plus surpris quand Medji a dit « Je t'ai écrit, fidèle. Sans doute Polka n'a-t-il pas apporté ma lettre ?» Je veux bien qu'on me supprime ma paix si de ma vie j'ai entendu dire qu'un chien pouvait écrire. Un noble seul peut écrire correctement. Bien sûr, il y a aussi des commis de magasin, même des serfs, qui sont capables de gribouiller de temps à autre en noir sur blanc, mais leur écriture est plus souvent mécanique, ni virgule, ni point, ni style. Je fus donc étonné, j'avoue, que depuis quelque temps, il m'arrive parfois d'entendre et de voir des choses que personne n'a jamais vues ni entendues. Alors, monsieur, je dis, je vais sur cette chienne, je saurai qui elle est et ce qu'elle pense. J'ai ouvert mon parapluie, emboîté le pas aux 2 dames, elles ont pris la rue Garokhovaya, tourné à la rue Mershkanskaya, puis à la rue Soligarnaya, et se sont arrêtées devant une grande maison. Je connais cette maison. Des fonctionnaires de mon espèce sont entassés les uns sur les autres comme des chiens. J'ai aussi un ami qui joue bien de la trompette. Les dames sont donc montées au 4e étage. C'est bon, me suis-je dit, pour aujourd'hui j'en reste là. Mais je repère l'endroit et ne manquerai pas d'en profiter à l'occasion. Notre directeur est certainement un homme très intelligent. Tout son cabinet est garni de bibliothèques pleines de livres. J'ai lu les titres de certains d'entre eux, tout cela c'est de l'instruction, mais une instruction qui n'est pas à la portée d'homme de mon Nakabi, toujours d'allemand ou du français. Et quand on le regarde, quelle gravité brille dans ses yeux. Je ne l'ai jamais entendu prononcer une parole inutile. C'est tout juste si quand on lui remet un papier, il vous demande « Quel temps fait-il » « Il fait humide, votre excellence. » Après cela, j'ai remarqué qu'il était midi et demi passé et que notre chef ne sortait toujours pas de sa chambre, mais vers 1h30, s'est produit un incident qu'aucune plume ne peut décrire. La porte s'est ouverte. J'ai cru que c'était le directeur. J'ai bondi de ma chaise, mes papiers à la main. Or, c'était elle. Elle-même, sainte du paradis. Comme elle était habillée, la robe qu'elle portait était d'une blancheur de cygne, une splendeur, et le coup d'œil qu'elle m'a jeté, un soleil. Dieu m'est témoin, un vrai soleil. Elle m'a adressé un petit salut, m'a dit: Papa n'est-il pas venu? Aïe, 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 quelle voix! Un canari. Aussi vrai que je suis là, un canari. Votre Excellence, vais-je vous le dire, ne me punissez pas. Mais si c'est là votre bon plaisir, châtiez-moi de votre auguste petite main et... Oui, mais le diable m'emporte, ma langue s'est embarrassée, je lui ai répondu seulement non. Elle a posé un regard sur moi, sur les livres, a laissé tomber son mouchoir, je me suis précipité, j'ai glissé sur ce maudit parquet, j'ai failli m'écraser le nez, je me suis rattrapé, j'ai ramassé le mouchoir. Oh, Saint-Ange, quel mouchoir en batiste la plus fine de l'ombre! Il n'y a pas d'autre mot sans mentir. Il sentait le général là. Elle m'a remercié d'un léger sourire qui a à peine entr'ouvert ses douces lèvres. Et elle a quitté la pièce. Et le petit fonctionnaire va peu à peu sombrer dans ce que des gens savants appelleront la schizophrénie. Peut-être nous dirons simplement le mal de vivre. Et son état va dégénérer au point qu'il va falloir l'interner. Mais avant cette fin, voici quelques extraits de son journal. Notre chef de section m'a mis en rage. Quand je suis arrivé au ministère, il m'a fait appeler à commencer ainsi. Dis-moi, je te prie, ce que tu fais. Comment cela, je ne fais rien? Allons, réfléchis bien, tu as passé la quarantaine, n'est-ce pas? Il serait temps de devenir raisonnable, qu'est-ce que tu t'imagines? Crois-tu que je ne suis pas au courant de toutes tes gamineries? Voilà que tu tournes autour de la fille du directeur maintenant, mais regarde-toi. Songe une minute à ce que tu es, un zéro, rien de plus. Et tu n'as pas un sous-vaillant, regarde-toi un peu dans la glace. Comment peux-tu même songer à cela? Sapristi. Sa figure à lui ressemble quelque peu à une fiole de pharmacien. Il a sur le sommet du crâne une touffe de cheveux bouclés en toupet. Il a fait tenir en l'air l'enduit d'une espèce de pommade à la rose. Il se figure qu'il n'y a que lui pour que tout est permis. Je comprends fort bien pourquoi il m'en veut. Il est jaloux. Il a peut-être été surpris des marques de bienveillance toutes particulières qu'on m'a octroyées. Ah, je crache sur lui. La belle affaire qu'un conseiller de la cour. Il accroche une chaîne d'or à sa montre, il se commande des bottes à 30 roubles et après, que le diable l'emporte. Et moi, est-ce que mon père était roturier, tailleur ou sous-officier? Je suis noble. Et la suite va montrer jusqu'où peut aller un cerveau trop amoureux, même si ce sont de ses rêves les plus inavouables. Je vous remercie de m'avoir écouté.